Chapitre 4. L'année scolaire 1986-1987 fut la seule où l'instituteur Antoine Py changea de bouc émissaire en cours d'année. De 1955 à 2001, à chaque rentrée des classes, il s'employa à deviner qui serait son souffre-douleur, un petit jeu dont il se délectait. Il le préparait déjà mentalement en faisant ses mots croisés au sable d'Olonne, où il se rendait chaque été. Serait-il blond, brun, roux, grand parce que redoublant ou fluet parce que trouillard? Un élève qu'il ne pourrait pas blairer dès le départ, dès qu'il poserait son cul sur un des bancs de sa classe, dès qu'il prononcerait le mot « présent » et que sa voix le désobligerait comme une fourchette qui griffe le fond d'une assiette. Que des garçons, le sexe faible ne l'intéressant pas. Et selon les fiches personnelles qu'il aurait lues, qu'il aurait décryptées pendant des heures. Comme il aimait déchiffrer les prénoms, les noms, les situations familiales de ses élèves. Qu'il se délectait de toutes ces informations. Exactement comme quand on regarde depuis l'extérieur, dans l'obscurité, ce qui se passe à l'intérieur d'une maison dont les fenêtres sont éclairées. Profession du père et de la mère, jamais il ne choisissait un élève dont les parents étaient cadres ou dans la fonction publique. C'est ce qui sauva Étienne Beaulieu le jour de la rentrée 1986. Si Py n'avait pas lu sur sa fiche que ses parents étaient de hauts fonctionnaires, il aurait dérouillé toute l'année. Se lever et prendre la parole sans demander la permission, et puis quoi encore? Et jamais il ne touchait de près ou de loin à un Abdelkader, comme il adorait appeler les élèves de confession musulmane en présence de quelques amis triés sur le volet. D'autres instituteurs venant d'autres académies que la sienne, rencontrés aux terrasses des cafés des Sables d'Olonne. Antoine Py n'avait pas d'amis à la Comelle. Il avait un rang et une certaine distance à respecter à cause de son métier. Une fois qu'il avait fait un premier tri, en examinant la situation professionnelle des parents et leur nationalité, 3 jours lui suffisaient pour élire celui qu'il prendrait en grippe, selon plusieurs critères invariables. L'élève paraissait complètement con, un regard d'abruti, une lenteur dans la compréhension, un tic, une chemise froissée, un peu de gras autour du bide, des chaussures sales, une démarche mal assurée. Il pouvait aussi s'en prendre à celui qui paraissait trop sûr de lui. Prétentieux, sourire en coin, l'œil qui frise, un petit rigolo. À cela, il adorait fermer le clapet. Il cherchait la faille la plus imperceptible de la classe pour s'y engouffrer. Il avait toujours enseigné en CM2, dernière classe avant que les élèves ne partent au collège, qu'il considérait comme la grande poubelle de l'éducation nationale. Il avait le sentiment de façonner des pierres précieuses pour qu'elles finissent dans un caniveau, de pisser dans un violon, comme il disait le soir à sa femme en avalant sa soupe. En septembre 1986, il jeta son dévolu sur Martin Delannoy, qui avait redoublé son CE1. Un problème de dyslexie. L'enfant voyait un orthophoniste. Py prenait un malin plaisir non pas à lui faire lire des textes à voix haute devant toute la classe, trop simple, pas assez pervers et surtout trop risqué, l'objectif étant de ne jamais attirer la suspicion des parents, de tous les parents. C'est que ses élèves parlaient, racontaient la vie de la classe devant leur assiette de ravioli. Py envoyait plutôt Martin Delannoy au tableau pour résoudre des problèmes de maths insolubles pendant des matinées entières. Il éprouvait une jouissance à peine dissimulée derrière un faux sourire à observer le tremblement d'un élève. La pâleur de sa peau, la brillance des fines gouttelettes de sueur sur ses tempes et son front, ses larmes ravalées jusqu'à ce qu'une minuscule flaque s'écrase sur l'estrade en bois. Une goutte de sang translucide, celui du chagrin trop longtemps retenu. Et puis c'était des rivières sur les joues, comme un barrage qui cède. Et lui, Py, de prendre une voix mielleuse et de dire « Retourne à ta place, mon garçon, tu resteras pendant la récréation, je t'expliquerai. » Il criait rarement, était d'une douceur crasse. Puis sans sommation, parce qu'un élève bavardait, parce que sa femme lui avait tourné le dos la veille au soir, parce qu'on lui avait refusé une priorité le matin, il se précipitait d'un bond sur l'enfant et le soulevait de terre par le col. Mauvaise note, hors sujet, ricanement, bavardage, inattention, bâillement. Dans ces cas-là, les murs tremblaient et la voix de l'homme résonnait jusqu'aux cimes des grands marronniers plantés dans la cour. Aucun parent ne se plaignait, car jamais un élève n'avait autant remonté sa moyenne générale qu'en passant dans la classe de M. Pi. On prononçait son nom avec délicatesse, on chuchotait « Il est chez M. Pi », avec un sourire et un contentement entendu. En fin d'année, on lui offrait de nombreux cadeaux, qu'il recevait les yeux humides, prononçant inlassablement « Vous savez, je ne fais que mon travail ». Ses leçons étaient extrêmement précises et claires. Pi pouvait passer des heures à expliquer quelque chose jusqu'à ce que chaque tête de pipe finisse par comprendre, quitte à se répéter et à se répéter encore, quitte à faire recopier une leçon jusqu'à ce qu'elle soit assimilée une bonne fois pour toutes, quitte à donner une liste de devoirs longue comme deux bras qui occupait des soirées et des dimanches entiers. Il était un instituteur remarquable, alors il pouvait bien s'offrir un bouc émissaire pour décompresser. Même le directeur de l'établissement, M. Avril, fermait les yeux sur ses agissements peu orthodoxes au vu de ses résultats exceptionnels. L'année scolaire 1986-1987 débuta donc avec l'élève Martin Delannoy, jusqu'à ce jour de mars, où la photo de classe fut distribuée juste avant la récréation. Une enveloppe par enfant, avec le prix de la photo et ceux des portraits individuels déclinés sous forme de calendrier, marque-page et carte de vœux. Ce matin-là, Adrien Bobin et Martin Delannoy restèrent en retenue pour finir d'écrire une leçon sur les accords au pluriel. Pi se rendit dans la salle des instituteurs pour boire un café. Il revint dans sa classe vers 11h, quelques minutes avant de reprendre le cours. Il poussa la porte en silence. Il adorait arriver à pas de loup derrière un élève pour le faire sursauter. Il observa Martin Delannoy, le nez dans son cahier, la tête sur le côté, promenant sa langue sur ses lèvres en recopiant sa leçon. Pi allait lui faire une réflexion quant à sa façon de tenir son stylo-plume lorsqu'il fut attiré par Adrien Bobin, le petit chevelu qui ne mouffetait jamais, qui travaillait bien. Le genre de gosse à qui on fout la paix en règle générale. Mais ce matin, il avait lambiné. Pi fut transpercé par une épée glacée quand son regard se posa sur lui. Son cerveau affûté mit un quart de seconde pour analyser. Sa rage silencieuse, sa perversion passa de l'un à l'autre. On aurait cru voir un arc électrique passer de l'élève Delannoy assis à gauche de la salle à l'élève Bobin à l'extrême droite. Adrien leva la tête et ne vit que du noir dans le regard de Pi. Derrière ses lunettes, une folle tempête déferlait sur lui, menaçante et mortelle, de celle qui assassine. Adrien comprit aussitôt. Il baissa les yeux, se remit au travail, mais il était trop tard.